France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Bonjour Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon. Merci d'être avec nous. Hier soir, vous n'étiez pas à Avignon, mais au studio 104 de la Maison de la Radio, ici, pour la soirée de lancement d'un rêve d'Avignon, la programmation spéciale de France Culture cette semaine. En partenariat avec votre festival annulé comme tant d'autres cet été, il se trouve que la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était aussi au 104 pour cette soirée. Elle a choisi d'en faire sa première sortie. Que pensez-vous de sa nomination, Olivier Py?
Bah écoutez, je crois que sa venue est un bon signe parce que sa première sortie, finalement, on aura le Festival d'Avignon, donc le théâtre public, et la Maison de la Radio et France Culture. Alors, c'est quand même plutôt un bon signe. Je crois que c'est une femme de conviction, c'est une femme de culture, elle connaît très très bien le jeu politique, elle a un poids médiatique, tout ça lui donne des atouts. Si toutefois, elle a le téléphone blanc avec l'Élysée. C'est toujours la difficulté des ministres de la Culture. C'est devenu très difficile d'être ministre de la Culture aujourd'hui. C'est un poste très difficile.
Et il y a 3 jours, vous signez une tribune dans Le Monde. Vous écriviez notamment « Pour la culture, le monde d'après ressemble à celui d'avant en ruine ». Roselyne Bachelot a dit hier, lors de la passation de pouvoir, vouloir mettre la culture au centre de la reconstruction du pays. Elle a dit aussi, on l'a entendu dans le journal de 8h, que la culture est quelque chose qui peut nous réunir, qui peut donner du sens dans une société qui cherche sa route. J'imagine que vous ne serez pas en désaccord avec ça. Mais comment fait-on aujourd'hui?
Eh oui, la culture est une arme de construction massive, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, que sur le rayonnement de la France. Et j'ai l'impression que les pouvoirs publics successifs n'en ont pas pris la totale mesure. Ils ne se rendent pas compte qu'il ne s'agit pas simplement d'un petit secteur, mais quelque chose qui touche au destin de notre nation et à l'honneur de la France. Depuis des années et des années, on voit les moyens du ministère de la Culture réduire, son périmètre augmenter. Alors, j'espère pour Roselyne Bachelot, j'espère qu'elle aura les moyens de son action, mais on a sablé le champagne pour sa nomination, mais maintenant, il reste à voir comment va être le budget.
Vous disiez le téléphone direct avec l'Élysée. Effectivement, dans votre tribune dans Le Monde que je citais, on comprend bien qu'au final, c'est au président de la République que vous en appelez, c'est de lui que vous attendez une vision pour la culture, la politique culturelle.
Oui, je crois qu'un grand président de la République de la France se doit d'avoir une ambition culturelle, mais une vraie ambition, parce que vous savez, le fameux 1%, on n'y est jamais arrivé vraiment. En plus maintenant, c'est culture et communication, donc en réalité pour la culture, il y a quoi? Il y a 0,5%. C'est des biscuits apéritifs dans un budget d'État, la culture. Je rêve de ça, je pense qu'Emmanuel Macron en a probablement le désir, en tout cas je lui ai dit moi personnellement, allons-y, faisons de grandes choses pour la culture, et aussi parce que rien ne s'y oppose, ni l'économique, ni le diplomatique, ni le politique, ni le social, ni les territoires. Il faut le faire, c'est aussi un objet de décentralisation important. J'aime beaucoup que Roselyne Bachelot ait ouvert en disant je suis la ministre des artistes et des territoires. Mmh. Et ça me semble très important. Considérer la décentralisation en France, c'est déjà un premier geste extrêmement important pour un renouvellement de la politique culturelle.
Vous nous dites, vous avez dit à Emmanuel Macron, allons-y, faisons de grandes choses. Et lui, il vous a dit quoi?
Vous savez, c'était avant la crise des Gilets jaunes, c'était avant le Covid, c'était avant la réforme des retraites, donc c'était au début de son quinquennat. Il est possible qu'il n'ait pas trouvé la fenêtre pour pouvoir avancer sa jambe gauche vers la culture. Mais c'est un souhait que j'ai. Pour nous tous, et encore une fois aussi pour les territoires, parce que les collectivités locales se sont énormément investies ces 20 dernières années. Donc il faut les soutenir dans cet effort. Quand leur dotation baisse, elles impactent la culture. Et j'ai une petite inquiétude sur la politique des Verts dans les grandes villes, parce que quand on voit ce qui s'est passé à Grenoble...
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé à Grenoble, Olivier?
À Grenoble, le maire a supprimé un orchestre, 2 théâtres, 2 bibliothèques.
Les musiciens du Louvre.
Donc
supprimé, enfin bon, il est...
Couper les subventions, c'est pareil. Je suis inquiet. Je suis inquiet d'une vision de la culture qui ressasse toujours les mêmes idioties. Ce serait coûteux, c'est pas vrai. Ce serait élitiste. Tiens, tu parles, la grande majorité, c'est le lumpenprolétariat de l'enseignement qui est là. Ce serait réservé à quelques-uns, mais enfin, on vend plus de billets que le foot. Toutes ces idioties, là, j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre et je rêve d'une grande, belle politique ambitieuse. J'ai envie de dire comme le monde entier l'attend de la France.
Et oui, et en même temps, vous l'avez l'ai dit, vous le dites vous-même dans votre texte dans Le Monde, la culture est en ruine. La priorité pour Roselyne Bachelot, est-ce que ça va pas être de gérer l'urgence? Elle l'a dit elle-même, elle a deux ans maximum, si tant est qu'elle reste jusqu'à la fin du quinquennat. Elle a dit aussi, pour certains, c'est une question de vie ou de mort. Peut-on attendre à court terme, dans ce contexte, autre chose qu'une gestion de l'urgence?
Bah écoutez, on a bien renfloué Air France, et pourquoi on renflouerait pas la culture? Parce que ça fait pas d'emploi.
Mais si. Donc c'est renfloué, voilà.
Déjà, il faut le faire. Oui, voilà. Déjà, il faut le faire. Il faut absolument renflouer la culture. Il y a pas d'autre solution. Hein. Vous avez vu le déficit de l'Opéra de Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'Opéra de Paris. Donc il y a un moment, il faudra quand même que Bercy comprenne que là, il y a un enjeu majeur, civilisationnel, et qu'ils peuvent pas simplement avoir une réaction comptable et faire des économies de bout de chandelle sur la culture. Et ça ne suffit pas, bien sûr, ça ne suffit pas. Ensuite, il faut identifier toutes ces forces en présence, parce qu'elles sont là. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien depuis des années pour que la démocratisation de la culture soit pas un vain mot. Il faut identifier ces forces-là, et puis il faut les épauler, il faut les organiser, il faut les aider. Il faut imaginer aussi la francophonie, il faut imaginer le rapport avec l'éducation nationale. Franchement, Roselyne Bachelot, elle a devant elle les travaux d'Hercule.
Et Roselyne Bachelot, elle a annoncé dès hier pour les prochains jours, en tout cas rapidement, des états généraux des festivals. Cela vous concerne évidemment, Olivier Pic, qu'en attendez-vous?
Ça me semble tout à fait nécessaire, on le fera peut-être à Avignon d'ailleurs, ce serait une bonne chose. C'est tout à fait nécessaire. Donc faire des états généraux comme ça, sectoriels, c'est une très très bonne idée. Les festivals, ils ont été terriblement impactés. Le festival Avignon n'a pas de problème financier majeur à cause du Covid, parce qu'on s'est arrêté suffisamment tôt. C'est un peu technique. Mais il y a d'autres festivals qui ne savent pas s'ils pourront reprendre l'année prochaine. Et puis, il faut penser aussi que les villes qui accueillent ces festivals ont aussi un déficit énorme. Évidemment. La ville d'Avignon, c'est 100 millions de retours économiques. Donc, il y a quelque chose à faire. Là, ça va pas être simple. Ça va pas être simple pour Roselyne Bachelot.
Elle dit aussi, Roselyne Bachelot, qu'il faut décloisonner le public et le privé. Bon, on n'a pas plus d'explications, de détails pour le moment, mais comment est-ce que vous l'entendez? Est-ce que c'est une bonne chose?
Ah non, je l'entends pas du tout, ça. Moi, j'entends qu'il faut surtout défendre le service public de la culture. C'est ça, surtout. Le privé peut très bien s'en sortir. Vous savez, il y a des gens qui ont gagné de l'argent aussi avec le Covid. Hein. Les plateformes, c'est le privé. Les GAFAN, je pense pas qu'on a besoin de les aider. Mais il y a un service public de la culture qui nous honore, qui honore la France. Et celui-là, il faut le porter très haut.
Et c'est quoi un service public de la culture, Olivier Py? Parce que justement, c'est ce que vous défendez aussi là dans votre tribune. Concrètement, c'est quoi un service public de la culture et comment ça se défend?
Eh bien, je vais vous expliquer très simplement. On me dit souvent, vous avez des subventions. Mais c'est pas les artistes qui ont des subventions. C'est les spectateurs. S'il n'y avait pas ces subventions-là, la place, elle serait à 100 euros et pas à 25 ou à 30 et quelquefois moins pour les étudiants comme elle l'était à Avignon. C'est ça d'abord, c'est subventionner les spectateurs pour que tout le monde ait accès à ces trésors immatériels que sont la culture. Immatériels et matériels. Mais enfin, les trésors matériels, ils tiennent mécaniquement. Les trésors immatériels, y compris la subjectivité d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura encore des gens pour désirer lire Racine ou Molière? On ne sait pas, ça peut disparaître du jour au lendemain. Regardez ce qui s'est passé en Italie, 2000 ans de culture, et puis paf, en 2 ans, 3 ans, 5 ans de berlusconisme, tout a disparu. Donc ces trésors immatériels, ce sont des trésors, et c'est ça le service public de la culture, c'est défendre ces trésors pour tous, c'est aussi simple que ça.
Merci beaucoup, merci Olivier Py d'être venu ce matin dans les matins d'été sur France Culture après une petite nuit donc.
Oui, j'ai dormi dans le couloir, très agréable.
Après la soirée au 104, et ben ça continue hein, comme chaque soir, rendez-vous de 20h à 22h pour un rêve d'Avignon, des enregistrements prévu à Avignon et qui existe quand même ici à la radio en direct du studio 104 et sur France Culture ce soir. Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke dans une version apparaître en octobre aux éditions du Seuil dans la collection Fiction et Compagnie. C'est avec Eric Caravaca et Grégoire Le Prince Ringuet. Réalisation Laure Egorov. Je précise qu'il reste des places pour ce soir au 104 et puis on peut aussi retrouver sur franceculture.fr la soirée d'hier avec la lecture de Girl d'Edna O'Brien et votre masterclass Olivier Py menée par Arnaud Laporte. Merci à vous.